Troisième partie. Paragraphe 12. Suite. En effet, il en est souvent des œuvres de sainteté comme des choses du siècle. Ce sont bien souvent ceux qui peinent le plus qui gagnent le moins. De même, ce ne sont pas toujours ceux qui paraissent le plus éprouvés qui ont le plus de mérite devant Dieu. Dieu regarde les cœurs plutôt que les œuvres. Plus on est occupé aux choses du dehors, moins on peut vaquer aux soins des choses du dedans. D'autant que, plus on est connu des hommes qui jugent sur les dehors, plus on acquiert de gloire parmi le monde, plus on se laisse égarer et enfler par l'orgueil. C'est pour prévenir cet égarement que l'apôtre rabaisse grandement le mérite des œuvres et augmente celui de la foi. Si Abraham, dit-il, a été justifié par ses œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture ? Abraham crut en Dieu, et cela lui a été imputé à vertu. Et encore, que disons-nous donc ? Que les gentils, qui ne cherchaient point la justice, ont atteint la justice, cette justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, en cherchant la loi de justice, n'est point parvenu à la loi de justice. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas par la foi, mais comme par les œuvres. Ceux qui tiennent cette conduite ressemblent aux gens qui nettoient les dehors d'un plat ou d'un vase, mais qui ne s'occupent pas de la propreté de l'intérieur. Plus occupés de la chair que de l'âme, ils sont plus charnels que spirituels. Pour nous, qui désirons que Jésus-Christ habite dans l'homme intérieur par la foi, nous faisons peu de cas des choses extérieures qui sont communes aux réprouvés comme aux élus, suivant ce qui est écrit « Je porte en moi, Seigneur, tous les vœux et tous les hommages que je vous rendrai. » Aussi ne suivons-nous pas les préceptes d'abstinence extérieure de la loi, laquelle évidemment ne contribue en rien à la vertu. Le Seigneur ne nous a rien interdit en fait de nourriture, seulement la gourmandise et l'ivresse, c'est-à-dire l'excès. Ce qu'il a toléré en nous, il n'a pas rougi de l'autoriser par son propre exemple, sans s'occuper de ceux qui se scandalisaient et s'emportaient en reproche. Ce qui lui a fait dire de lui-même, « Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils ont dit, il est possédé du démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils ont dit, « Voilà un gourmand, un ivrogne. » Et même pour excuser ses disciples, qui ne jeûnaient pas comme saint Jean, et qui, pour manger, ne se mettaient pas en peine de laver leurs mains, il dit, « Les fiancés du Fils de l'homme ne peuvent prendre le deuil, tandis qu'il est fiancé avec eux. » Et ailleurs, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, c'est ce qui en sort. » Or, ce qui sort de la bouche vient du cœur, et voilà ce qui souille l'homme. Mais de ne point se laver les mains pour manger, cela ne souille pas l'homme. Ce n'est donc pas la nourriture qui souille l'âme, c'est la convoitise de la nourriture défendue. Car, ainsi que le corps ne peut être souillé que par des choses corporelles, l'âme ne peut être souillée que par des choses spirituelles. Ce qui se passe dans notre corps n'est point à craindre si l'âme n'y a point de part, et il n'y a pas à se glorifier de la pureté du corps lorsque l'âme est intentionnellement corrompue. C'est dans le cœur que réside tout entière la mort ou la vie de l'âme. Ce qui fait dire à Salomon dans ses proverbes « Gardez votre cœur avec toute la vigilance possible, car il est la source de la vie. » Suivant cette déclaration de la vérité, c'est du cœur que sort ce qui souille l'homme, parce que l'âme se perd ou se sauve par ses bons ou ses mauvais désirs. Mais comme l'âme et le corps sont intimement unis dans la même personne, il faut bien prendre garde que le plaisir du corps n'entraîne le consentement de l'âme et que, par trop d'indulgence pour la chair abandonnée à elle-même n'entre en lutte avec l'esprit et ne domine là où elle doit obéir. Or, nous éviterons ce danger si, comme je l'ai dit, donnant satisfaction à tous les besoins du corps, nous en retranchons le superflu, et si nous accordons au sexe le plus faible l'usage de toute nourriture, ne lui en interdisant que l'abus. Qu'il soit permis de manger de tout, mais qu'il ne soit permis de manger de rien avec excès. Tout ce que Dieu a créé, dit l'apôtre, est bon, et il ne faut rien rejeter de ce qui est reçu avec des actions de grâce. Car la parole de Dieu et la prière le sanctifient. En donnant cette règle à vos frères, vous vous montrerez bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine à laquelle vous vous êtes attaché. Nous, donc, suivant avec Timothée la doctrine de l'apôtre et selon le précepte du Seigneur, n'évitant rien dans les aliments que la gourmandise et l'ivresse, usons de tous dans une mesure telle qu'ils servent à soutenir en nous la faiblesse de la nature, non à nourrir les vices. Portons surtout cette mesure dans l'usage de ceux qui, par leur superfluité, peuvent être les plus dangereux. Il est plus grand et plus louable de manger sobrement que de jeûner tout à fait. Ce qui fait dire à saint Augustin, dans son livre du bien du mariage, là où il parle des aliments qui doivent soutenir le corps, « On n'use bien que des choses dont on peut se passer. » Beaucoup, en effet, trouvent plus aisé de n'en pas user du tout que d'en régler sagement l'usage. Il n'y a pas de sagesse, cependant, là où il n'y a pas continence. C'est de cette mesure que saint Paul disait « Je sais supporter l'abondance et la privation. » Souffrir la privation, c'est affaire à tous les hommes. Mais savoir souffrir la privation est le trait des grands hommes. De même, il n'est personne qui ne puisse commencer à vivre dans l'abondance. Mais savoir supporter l'abondance est le propre de ceux que l'abondance ne corrompt pas. Quant au vin qui, je le répète, est une source de luxure et de désordre, et qui, par là même, est aussi contraire à la continence qu'au silence, ou bien les femmes s'en abstiendront absolument pour l'amour de Dieu, comme les femmes des gentils s'en abstenaient par crainte des adultères, ou bien elles le tempéreront avec de l'eau, afin de pourvoir en même temps et à leur soif et à leur santé, sans qu'ils puissent faire mal. Et il en sera ainsi si le mélange contient au moins un quart d'eau. Il est très difficile de se ménager, de façon à ne pas boire jusqu'à la satiété, ainsi que le recommande saint Benoît. Aussi pensons-nous qu'il est plus sûr de ne pas interdire la satiété pour ne pas nous exposer à un autre danger. Car ce n'est pas dans la satiété, je le répète, c'est dans la superfluité qu'est le mal. Quant à composer du vin avec des plantes comme médicament ou à prendre du vin pur, nous ne l'interdisons point. Mais à la condition que les malades seuls en goûtent et que la communauté n'en use point. Défense absolue de faire le pain avec du pur froment. Lorsqu'on aura du froment, on y devra mêler au moins un tiers de farine plus grossière. Point de pain tendre. Du pain qui soit cuit au moins de la veille. Quant aux autres aliments, la diaconesse y pourvoira. C'est, comme je l'ai dit, en achetant les choses les moins chères et les plus faciles à se procurer qu'elle devra subvenir aux besoins du sexe faible. Quelle folie, en effet, d'acheter aux autres quand ce qu'on a soi-même suffit, de chercher au dehors le superflu quand on a chez soi le nécessaire, de se donner de la peine pour avoir au-delà du suffisant quand on a le suffisant sous la main. Ces sages habitudes de mesure, ce sont moins les hommes que les anges, que dis-je, c'est Dieu lui-même qui nous les enseigne et qui nous montre que ce qu'il nous faut pour cette vie de passage, ce n'est pas de rechercher la qualité des aliments, c'est se contenter de ceux qu'on a près de soi. Les anges mangèrent des viandes qu'Abraham leur servit. C'est avec des poissons trouvés dans le désert que Jésus-Christ rassasia une multitude à jeun. Ce qui prouve clairement que l'usage de la chair ou du poisson n'a rien de répréhensible en soi et qu'il faut prendre la nourriture qui est pure du péché, qui s'offre d'elle-même et qui est de l'apprêt le plus facile, du prix le moins coûteux. Sénèque, le plus grand des sectateurs de la pauvreté et de la continence, le plus éminent des prédicateurs de morale parmi les philosophes, disait « Notre but est de vivre selon la nature. Or, il est contre la nature de tourmenter son corps, de fuir la propreté qui ne coûte rien, de se plaire dans la saleté, d'user d'une nourriture non grossière mais dégoûtante. Si chercher les choses délicates et le propre de la mollesse, c'est folie de se priver de celles dont tout le monde use et qui coûtent peu. La philosophie exige qu'on soit sobre, non qu'on se martyrise. Il peut y avoir une sage frugalité. C'est cette mesure qui me plaît. » C'est ce qui fait dire aussi que saint Grégoire, dans son 30e livre des morales, pour montrer que les hommes pêchent moins par la qualité des aliments que par celle des sentiments, distingue aussi les tentations de la gourmandise. Tantôt, elle cherche les aliments les plus délicats, tantôt elle prendra la première chose venue, mais à la condition que la préparation en soit particulièrement soignée. C'est quelquefois ce qu'il y a de plus grossier qu'elle désire, et cependant, par la violence même de ce désir, elle pêche encore. Le peuple tiré d'Égypte succomba dans le désert parce que, au mépris de la manne, il demanda des viandes comme une alimentation plus délicate. Ésaü perdit la gloire de son droit d'aînesse pour avoir ardemment désiré une nourriture grossière, un plat de lentilles. En vendant à ce prix son droit d'aînesse, il a trahi la violence de sa convoitise. Ce n'est pas dans la nourriture, c'est dans la convoitise qu'est le péché. Aussi pouvons-nous bien souvent manger les mets les plus délicats sans péché, tandis qu'il en est de grossiers auxquels nous ne pouvons toucher sans que notre conscience nous accuse. Ésaü, donc, je le répète, a perdu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et Élie, dans le désert, a conservé la pureté de son corps en mangeant de la viande. Aussi, l'antique ennemi du monde, sachant bien que ce n'est pas l'aliment mais la convoitise de l'aliment qui est la cause de la condamnation, s'est assujetti le premier homme, non avec des viandes mais avec une pomme. Le second, c'est également avec du pain, non avec de la viande, qui l'a tenté. Ainsi commettons-nous bien souvent le péché d'Adam, alors même que nous prenons des aliments vils et grossiers. Il faut donc prendre ce que réclame le besoin de la nature, non ce que la passion de manger suggère. On désire avec moins d'ardeur ce qui a moins de prix, ce qui est moins rare et moins cher. Telles sont les viandes communes qui, valant mieux que le poisson pour soutenir des tempéraments faibles, sont moins coûteuses et d'un plus facile apprêt. Il en est de la viande et du vin comme du mariage. Ce sont choses intermédiaires entre les bonnes et les mauvaises, c'est-à-dire indifférentes, bien que le commerce de la chair ne soit pas tout à fait sans péché et que le vin soit le plus pernicieux de tous les aliments. Or, si, pris avec mesure, le vin n'est pas interdit aux religieux, qu'avons-nous à craindre pour les autres aliments dès le moment que nous ne dépassons pas la mesure ? Quand saint Benoît, tout en reconnaissant que le vin ne convient pas aux moines, se croit cependant obligé, en vue du refroidissement de la foi, d'en tolérer l'usage dans une certaine mesure, que ne devons-nous pas permettre aux femmes, auxquelles aucune règle n'interdit rien ? Quand les évêques eux-mêmes, quand les chefs de la Sainte Église, quand, enfin, les communautés religieuses peuvent sans péché manger de la viande, parce qu'ils n'ont pas fait de vœux qui les en empêchent, qui pourra nous blâmer d'être aussi tolérants pour des femmes, alors surtout qu'elles sont soumises en tout le reste à une plus grande austérité ? Il suffit sans doute aux disciples de faire comme le maître, et ce serait une grande inconséquence que de refuser à des communautés de femmes ce qu'on accorde à des communautés d'hommes. Il n'est même que juste qu'avec la règle sévère de leur couvent, les femmes, jouissant de la permission de manger des viandes, n'aient pas dans leurs ailes pieux de moindres avantages que les pieux laïcs, puisque, au témoignage de saint Jean Chrysostome, rien n'est permis aux séculiers qui ne soit permis aux réguliers, sauf le droit de se marier. Saint Jérôme aussi, jugeant que la conduite des clercs ne doit pas être inférieure à celle des moines, dit « C'est comme si l'on prétendait que tout ce qui est enjoint aux moines ne s'étend pas aux clercs, qui sont les pères des moines. » Et qui peut méconnaître qu'il est contraire à toute règle de discernement d'imposer aux faibles la même charge qu'aux forts et d'obliger les femmes à la même abstinence que les hommes ? En veut-on une preuve, indépendamment des enseignements de la nature ? Que l'on consulte saint Grégoire. Ce chef, ce docteur éminent de l'Église, éclairant sur ce point les autres docteurs de l'Église, au chapitre 24e de son pastoral, s'exprime ainsi. Autres sont les instructions à donner aux hommes, autres sont celles qui conviennent aux femmes. Aux uns, on peut imposer un joug pesant, aux autres, il faut un joug plus doux. À ceci, des grandes épreuves, à celles-là, des épreuves plus légères qui les convertissent doucement. Ce qui est peu de choses pour les forts et beaucoup pour les faibles. Au surplus, l'usage des viandes communes flatte moins que celui de la chair des poissons ou des oiseaux. Cependant, saint Benoît ne nous les interdit pas, et l'apôtre, en faisant la distinction de toutes les espèces de viande, dit « Toute chair n'est pas même chair. Celle des hommes n'est pas celle des animaux. Autre est celle des oiseaux, autre celle des poissons. » La loi du Seigneur a mis au nombre des chairs à lui offrir en sacrifice celle des animaux, celle des oiseaux, et point celle des poissons, afin qu'on ne croie pas que la chair du poisson est plus pure à ses yeux que celle des animaux. En effet, le poisson est une chair d'autant plus dispendieuse et plus onéreuse pour les pauvres qu'elle est moins abondante et moins fortifiante. Elle coûte davantage et ne nourrit pas autant. Prenons donc en considération les ressources des hommes et leur nature. Nous n'interdisons, je le répète, que le superflu. Nous recommandons l'usage modéré des viandes et de tous les autres aliments, en telle sorte que l'abstinence soit plus sévère chez les religieuses, tous les aliments leur étant permis, que chez les religieux, à qui certains aliments sont interdits. Nous voulons que l'usage de la viande soit réglé de telle façon qu'elle n'en mange qu'une fois par jour. Qu'on ne serve jamais deux portions de viande différentes à la même personne. Qu'on n'y ajoute aucune garniture de légumes et qu'on ne puisse user de chair plus de 3 jours par semaine, savoir le dimanche, le mardi et le jeudi, quelles que soient les fêtes qui tombent dans les intervalles. Car plus grande est la solennité, plus il la faut célébrer par l'abstinence. C'est à quoi saint Grégoire de Nanzianze, ce remarquable docteur, nous engage vivement dans son 3e livre de la Chandeleur ou de la 2e Épiphanie. Célébrons, dit-il, cette fête, non en nous livrant au plaisir de la table, mais en nous abandonnant aux pures joies de l'esprit. Et ailleurs, au 4e livre de son traité sur la Pentecôte et l'Esprit Saint, ce jour est le jour de notre fête, dit-il. Amassons dans le trésor de nos cœurs quelque chose de durable, d'éternel, non de ces choses qui passent et se dissolvent. Le corps a assez de ses mauvais penchants, il n'a que faire de plus de matière. C'est une bête insolente, gardons-nous de la rendre plus insolente par une abondante nourriture. Elle nous tourmenterait plus violemment. Il faut donc célébrer les fêtes tout spirituellement. C'est aussi ce que recommande, dans sa lettre sur la manière de recevoir les présents, saint Jérôme, fidèle à la doctrine de son maître. Nous devons moins nous inquiéter, dit-il, de célébrer les fêtes par l'abondance de la chair que par les joyeux tressaillements de l'esprit. Il serait absurde d'honorer par des excès de table un martyr qui s'est rendu agréable à Dieu par ses jeûnes. Et saint Augustin, sur le remède de la pénitence, considérez ces milliers de martyrs. Pourquoi célébrer leurs fêtes par des repas de débauche et ne pas plutôt imiter leur vie par une honnête conduite? Les jours où on ne mangera pas de viande, il y aura 2 portions de légumes quelconques. On pourra ajouter du poisson. Point d'assaisonnement recherché, on se contentera de ceux qui sont produits par le pays. Point de fruits que le soir. Quant à celles qui ont besoin d'un régime, nous ne défendons point qu'on leur serve des herbes, des racines, des fruits ou autre chose de ce genre. Si quelque religieuse étrangère, à laquelle on aura donné l'hospitalité, prend part au repas, on lui offrira quelques portions supplémentaires pour lui donner une idée de la charité de la maison. Elle sera libre de partager cette portion avec qui elle voudra. On la fera asseoir à la grande table, elle et les autres, si elles sont plusieurs. La diaconesse les servira. Elle prendra ensuite son repas avec les servantes de table. Si quelque sœur veut dompter en elle les ardeurs de la chair en diminuant la quantité de sa nourriture, qu'elle ne prenne point sur elle de rien faire sans permission. Cette permission ne devra jamais lui être refusée si ce n'est point un caprice, mais un sentiment de vertu qui lui a inspiré ce désir de privation et si son tempérament est de force à le supporter. Mais il ne sera jamais permis à qui que ce soit de demeurer un jour sans manger. Les vendredis, on ne mangera jamais rien d'accommodé au gras. On se contentera de la nourriture des jours de carême, sorte d'abstinence qui sera comme une marque de sympathique compassion pour les souffrances de l'époux mort ce jour-là. Il est encore une chose qu'il faut non seulement défendre, mais avoir en horreur, bien qu'elle soit en usage dans la plupart des monastères. C'est que les religieuses essuient leurs mains ou leurs couteaux avec des morceaux de pain qui restent du dîner et qui sont la part des pauvres. Pour ménager le linge de table, on ne doit point salir le pain des pauvres, que dis-je, le pain de celui qui a dit en parlant des pauvres « Ce que vous faites au moindre des miens, c'est à moi que vous le faites. » Relativement aux jeunes, il suffira de suivre la règle générale de l'Église, car nous ne prenons pas sur nous d'imposer aux religieuses des pratiques plus sévères que celles des pieux laïcs. Nous ne voulons pas mettre la faiblesse des femmes au-dessus de la force des hommes. Depuis l'équinoxe d'automne jusqu'à Pâques, à cause de la brièveté des jours, nous pensons qu'un seul repas suffit. Nous disons « à cause de la brièveté des jours » et non « eu égard à l'abstinence monastique ». Nous ne ferons point ici de distinction d'aliments. Quant aux vêtements, on évitera par-dessus tout les vêtements de prix qui sont absolument condamnés par l'Évangile. Le Seigneur lui-même nous en détourne en condamnant l'orgueil du mauvais riche et en exaltant l'humilité de Jean. C'est ce qu'explique saint Grégoire dans sa quatrième homélie sur les Évangiles. Pourquoi, dit-il, se sert-il de ces paroles? Les gens qui sont délicatement vêtus dans les maisons des rois? Si ce n'est pour démontrer clairement que ceux-là combattent pour le royaume de la terre, non pour le royaume des cieux, qui refusent de souffrir pour Dieu et qui, adonnés tout entier aux biens extérieurs, ne cherchent que les douceurs et les délices de la vie présente. Et le même, dans sa onzième homélie, « Il en est qui pensent que le goût des vêtements délicats et de grand prix n'est pas un péché. Si ce n'était pas une faute, la parole du Seigneur n'indiquerait pas aussi expressément que le riche qui souffrait les tortures de l'enfer était couvert de lin et de pourpre. On ne recherche des vêtements de luxe que pour la satisfaction d'une vaine gloire, que dans l'idée de s'attirer plus dommages. » Ce qui le prouve, c'est qu'on ne se revêt pas d'habits de prix là où on ne peut être vu du monde. Saint Pierre détourne également de cet abus les femmes séculières et mariées dans sa première épître. Que les femmes soient soumises à leurs maris, en telle sorte que si les maris ne croient pas à la parole des femmes, ils soient gagnés par les exemples de leur commerce et envisagent avec crainte ce que leur impose la pureté de ce commerce. Point de tresse de cheveux postiches, point de ceinture d'or, point de robe somptueuse, qu'elles s'attachent à parer l'homme qui est au fond de leur cœur par l'incorruptibilité d'un esprit calme et modeste, ce qui est le plus riche des vêtements devant Dieu. C'est avec raison qu'il a cru devoir détourner de cette vanité les femmes plutôt que les hommes, parce que leur esprit faible les y pousse d'autant plus que la luxure a plus de prise sur elles. Or, si les femmes qui vivent dans le monde doivent être arrêtées sur cette pente, que convient-il de faire à l'égard des femmes vouées à Dieu, elles dont le véritable ornement est de n'en avoir pas? Pour elles, rechercher ces ajustements ou ne pas les rejeter si on les leur offre, c'est perdre leur réputation de chasteté, c'est se préparer moins à la religion qu'à la fornication, c'est se mettre au rang non des religieuses mais des courtisanes. Pour elle, la parure est comme l'insigne du libertinage, elle trahit la corruption de l'âme, ainsi qu'il est écrit « L'habillement, le rire, la marche révèlent l'homme ». Nous voyons que le Seigneur a loué et exalté dans Jean-Baptiste la grossièreté des vêtements plutôt que l'austérité des aliments. « Qu'êtes-vous allé voir, dit-il, dans le désert? Un homme vêtu d'habits délicats ?» Parfois, en effet, la recherche dans les aliments peut avoir quelque utilité, mais dans les vêtements, jamais. Plus les vêtements sont précieux, plus on les conserve. Moins ils servent, plus ils coûtent à celui qui les a achetés. Dessus, lorsqu'il sera nécessaire, à cause de la tonsure, on ajoutera un bonnet de peau d'agneau. 13. Ce n'est pas seulement dans la nourriture et l'habillement qu'il faut éviter le superflu, c'est aussi dans les bâtiments et tous les autres biens. Quant aux bâtiments, s'ils sont plus spacieux ou plus beaux qu'il n'est nécessaire, si nous les ornons de peintures ou de sculptures, ce ne sont plus des asiles de pauvres, ce sont des palais de rois. « Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, dit saint Jérôme. et vous possédez de vastes portiques et des bâtiments immenses. Se plaire à avoir de beaux chevaux, des chevaux de prix, ce n'est pas seulement de la superfluité, c'est évidemment une vanité pure. Multiplier ses troupeaux, étendre ses domaines, c'est donner carrière à l'ambition des biens extérieurs. Et plus nous possédons sur cette terre, et plus nous sommes forcés de penser à ce que nous possédons, plus nous sommes détournés de la contemplation des choses du ciel. Notre corps a beau être enfermé dans un cloître, l'âme, attachée à ses possessions du dehors, est forcée de les suivre. Elle se répand ça et là avec elle. Nous sommes d'autant plus en proie à la crainte que nous possédons plus de choses qui peuvent être perdues. Plus ces choses ont de valeur, et plus nous les aimons, plus elles tiennent notre misérable cœur enchaîné à leur poursuite. Il faut donc songer à fixer une mesure aux dépenses de notre maison, de façon à ne rien chercher au-delà du nécessaire, à ne recevoir aucune offrande, à ne garder aucun dépôt. Tout ce qui dépasse le nécessaire, nous ne le possédons qu'à titre de vol, et nous sommes coupables de la mort d'autant de pauvres que nous aurions pu en secourir avec ce superflu. Chaque année, donc, après la récolte, il faudra assurer les besoins de l'année. Le reste, on le donnera, ou plutôt, on le restituera aux pauvres. Il en est qui, ignorant la mesure de la sagesse, se font honneur d'avoir une maison nombreuse, n'ayant que peu de revenus, et pour subvenir à ces lourdes charges, ils vont impudemment mendier quand ils n'arrachent pas violemment ce qu'on ne leur veut point donner. Tels nous voyons aujourd'hui certains supérieurs qui, fiers du nombre de leurs religieux, tiennent de moins à en avoir de bons qu'à en avoir beaucoup, et s'estiment d'autant plus grands qu'ils sont grands au milieu d'un plus grand nombre. Pour attirer les novices dans leur maison, au lieu de leur annoncer des austérités, ils leur promettent toutes sortes de douceurs, et les recevant sans examen ni épreuve, ils les perdent par l'apostasie. C'est contre eux sans doute que Jésus-Christ s'est levé par ses paroles « Malheur à vous qui parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et qui, l'ayant fait, le rendez deux fois plus que vous digne de l'enfer ». Certes, ils seraient moins fiers de la multitude de leurs religieux s'ils cherchaient le salut des âmes plutôt que le nombre des prosélytes et s'ils présumaient moins de leur force dans la conduite de leur communauté. Le Seigneur avait choisi un petit nombre d'apôtres et parmi ceux qu'il avait choisis, il se trouva un apostat, ce qui lui fait dire « Ne vous ai-je pas choisi tous les 12 ? Et cependant, il se trouve parmi vous un démon. » Tel avait été Judas parmi les disciples, tel fut Nicolas parmi les 7 diacres. Lorsque les apôtres n'avaient encore réuni qu'un petit nombre de fidèles, Ananias et Saphira, sa femme, méritèrent d'être frappés d'une sentence de mort. De tous ceux qui s'étaient d'abord attachés à suivre le Seigneur, beaucoup l'abandonnèrent et il n'en resta qu'un bien petit nombre. Car étroite est la voie qui conduit à la vie et il en est peu qui savent y marcher. Large et spacieuse, au contraire, est la voie qui conduit à la mort, et il en est beaucoup qui s'y engagent. C'est que, selon la parole du Seigneur, il est beaucoup d'appelés et peu d'élus. Le nombre des insensés, dit Salomon, est infini. Qu'il tremble donc celui qui se réjouit de la multitude de ses religieux, qu'il craigne que, selon la parole du Seigneur, il ne se trouve parmi eux peu d'élus, et que, multipliant sans mesure son troupeau, il ne puisse suffire à le garder, en sorte qu'il mérite cette parole du prophète « Vous avez multiplié ce peuple, mais vous n'avez pas augmenté sa joie. » Tels sont en effet ceux qui sont fiers du nombre. Obligés pour leurs propres besoins et pour ceux de la communauté de sortir, de rentrer dans le siècle et d'aller çà et là mendier, ils s'embarrassent bien plus du soin des corps que du soin des âmes et s'attirent plus de mépris que de gloire. Une telle conduite serait pour des femmes une honte d'autant plus grande qu'il leur est plus dangereux de courir par le monde. Quiconque veut vivre honnêtement, tranquillement, se donner au service du Seigneur, se rendre cher à Dieu et aux hommes, doit craindre de rassembler plus de frères qu'il n'en peut soigner. Ne point compter pour ses dépenses sur la bourse d'autrui, songer à faire, non à demander l'aumône. L'apôtre saint Paul, le grand prédicateur de l'Évangile, avait, au nom de l'Évangile, le droit de recevoir assistance. Il travaillait de ses mains pour n'être à charge à personne et ne point porter atteinte à sa gloire. Pour nous, dont le devoir est non de prêcher, mais de pleurer les péchés, quel serait notre aveuglement, notre honte d'aller mendier notre subsistance? Comment pourrions-nous soutenir ceux que nous aurions inconsidérément réunis? N'est-ce pas déjà assez de folie d'aller soudoyer des prédicateurs, faute de savoir prêcher, et conduisant à la ronde ces faux apôtres, de porter partout nos croix et nos reliques pour vendre aux simples et aux imbéciles non la parole de Dieu, mais les mensonges dorés du diable, pour leur tout promettre afin de leur escroquer leur argent? Ah, c'est déjà cette cupidité impudente à chercher les biens de ce monde et non ceux de Jésus-Christ, qui fait, ainsi que personne ne l'ignore, qu'on n'a plus de respect ni pour cet ordre, ni pour la prédication de la parole de Dieu. Aussi les abbés, les supérieurs des monastères, qui se glissent avec importunité chez les puissants du siècle et dans les cours des rois, passent-ils plutôt pour des gens charnels que pour des cénobites? Tandis qu'ils poursuivent par tous les moyens la faveur des hommes, ils s'habituent à converser avec le monde plutôt qu'à parler avec Dieu. Ils ont lu plus d'une fois sans doute, mais ils ont mal lu. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris cet avertissement de saint Antoine. Les poissons qui demeurent longtemps sur le sable meurent. De même, les moines qui vivent trop longtemps hors de leur cellule et qui, dans le commerce des séculiers, rompent leurs vœux de retraite. Nous devons donc retourner en toute hâte à la cellule comme le poisson à la mer, de peur que, restés trop longtemps dehors, nous n'oublions l'habitude de vivre au-dedans. Convaincu de cette vérité, l'auteur de la règle monastique, saint Benoît, a catégoriquement enseigné, par son exemple comme par ses écrits, qu'il faut que les abbés soient assidus au couvent et restent à veiller avec sollicitude à la garde de leurs troupeaux. Il avait un jour quitté sa maison pour rendre visite à sa chère sœur, sainte Scolastique, et celle-ci voulait le retenir auprès d'elle seulement une nuit pour profiter de ses instructions. Il déclara qu'il ne pouvait absolument rester hors de sa cellule. Il ne dit même pas « Nous ne pouvons, mais je ne puis », parce que les frères pouvaient le faire avec sa permission, tandis que lui ne le pouvait que sur l'ordre de Dieu, comme il l'a fait plus tard. Aussi, dans sa règle, ne parle-t-il nulle part des sorties de l'abbé, mais seulement de celles des frères. Il a, au contraire, si bien pris ses mesures pour assurer sa présence assidue qu'aux vigiles des dimanches et des jours de fête, il veut que la lecture de l'Évangile et des instructions qui y sont jointes ne soient faites que par l'abbé. Dans son règlement sur la table à laquelle l'abbé doit s'asseoir avec les pèlerins et les hôtes, il lui permet, à défaut d'hôtes, d'inviter les frères qu'il lui plaît, en ayant soin seulement de laisser un ou deux des anciens avec les frères. Par là, il fait entendre clairement que l'abbé ne doit jamais être absent du monastère à l'heure des repas, de peur qu'une fois habitué à la chair délicate des grands, il ne laisse le pain grossier aux religieux. C'est de ces abbés que la vérité a dit « Ils lient des fardeaux pesants et au-dessus des forces humaines, et ils les mettent sur le dos des autres, tandis que pour eux, ils n'y veulent pas toucher du bout des doigts. » Et ailleurs, parlant des faux prédicateurs, « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent vers vous. Ils viennent d'eux-mêmes, dit-il, sans que Dieu les envoie et les ait chargés d'une mission. » Jean-Baptiste, notre chef, à qui le pontificat revenait par héritage, s'éloigna de la ville pour se retirer dans le désert, c'est-à-dire qu'il abandonna le pontificat pour le monastère, la vie des cités pour la solitude. Le peuple venait à lui, ce n'était pas lui qui allait chercher le peuple. Il était si grand qu'il fut pris pour le Christ et eut le pouvoir de réformer certains abus dans les villes. Il était déjà dans le petit lit d'où il était prêt à répondre au bien-aimé frappant à sa porte. « Je me suis dépouillé de ma robe, comment la reprendrai-je? J'ai lavé mes pieds, puis-je les salir? » Quiconque désire vivre dans la solitude de la paix monastique doit donc se réjouir d'avoir un petit lit plutôt qu'un grand, car c'est de ce lit que la vérité a dit « qu'on prenne l'un et qu'on laisse l'autre ». C'est que, ainsi que nous le lisons, le petit lit de l'épouse n'est autre chose que le lit d'une âme contemplative, étroitement unie au Christ et s'attachant en lui d'un souverain désir. Et ce lit, dès qu'on y est entré, on n'est jamais abandonné. En veillant toute la nuit dans mon petit lit, dit-elle, j'ai cherché celui que chérit mon âme. C'est de ce petit lit que, dédaignant ou craignant de se lever, elle fait au bien-aimé qui frappe la réponse que j'ai rappelée tout à l'heure. De son lit, elle ne voit que des souillures dont elle craint de salir ses pieds. Dina n'est sortie qu'une fois pour aller voir des étrangers et elle s'est perdue. Et comme un moine cloîtré nommé Alcus l'entendit un jour dire à son abbé, comme il en fit lui-même l'expérience, « La brebis qui sort de la bergerie tombe bientôt sous la dent du loup. » Ne formons donc pas une communauté trop nombreuse dont les besoins nous invitent à sortir, que dis-je, nous y obligent, et nous fassent faire le bien des autres à notre détriment, semblables au plomb qu'on met dans le creuset pour conserver l'argent. Craignons, au contraire, qu'une fournaise trop ardente de tentation ne consume à la fois le plomb et l'argent. On objectera que Jésus-Christ a dit « Je ne rejetterai pas celui qui sera venu à moi ». Nous non plus, nous ne voulons pas rejeter ceux qui sont admis, mais nous voulons qu'on regarde à ceux qu'on recevra, en sorte qu'après les avoir admis, nous ne soyons pas exposés à être rejetés nous-mêmes à cause d'eux. Car si nous ne croyons pas que le Seigneur ait rejeté aucun de ceux qu'il avait admis, il en a repoussé qui se présentait, puisqu'à celui qui lui disait « Maître, je vous suivrai partout où vous irez », il a répondu « Les renards ont des tanières », etc. Il nous avertit encore de calculer les dépenses de toute entreprise avant de l'exécuter. « Quel est, dit-il, celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne compte de sang-froid ce qu'elle lui coûtera, et s'il aura de quoi la mener à bonne fin, de peur que, ne pouvant l'achever, après en avoir jeté les fondements, tous ceux qui la verraient ne se moquent de lui et ne disent « Cet homme a commencé de bâtir et il n'a pu aller jusqu'au bout. » C'est beaucoup pour chacun de faire son propre salut. Il est dangereux de prendre à sa charge le salut de plusieurs quand c'est à peine si l'on peut suffire à la garde de soi-même. On ne garde d'ailleurs avec sollicitude que lorsqu'on a pris l'engagement de le faire avec tremblement. Nul ne persévérera dans une entreprise autant que celui qui a hésité et réfléchi avant de s'y lancer. Les femmes y doivent donc mettre d'autant plus de réflexion que leur faiblesse est moins à l'épreuve des lourds fardeaux et que les douceurs de la vie tranquille leur sont plus nécessaires. 14. L'Écriture sainte est sans contredit le miroir de l'âme. Quiconque se nourrit de sa lecture et profite de ce qu'il y voit, connaît la beauté de ses mœurs ou en découvre la laideur, en sorte qu'il peut accroître l'une et diminuer l'autre. C'est ce miroir que saint Grégoire, dans son traité des morales, livre second, nous rappelle dans le passage où il dit « L'Écriture sainte est pour les yeux de l'âme un miroir qui nous est présenté, afin que nous voyons notre visage intérieur. C'est là, en effet, que nous connaissons nos actions honteuses, là que nous envisageons nos bonnes actions, là que nous jugeons ce que nous avons fait de progrès et combien nous sommes éloignés d'en avoir fait. » Or, celui qui regarde l'Écriture sans la comprendre est comme un aveugle qui aurait un miroir sous les yeux. Il ne peut y voir ce qu'il est, ni y chercher les lumières qu'elle renferme. Il est devant l'Écriture, faute d'en savoir profiter, comme serait un âne devant une lyre. C'est un affamé auquel est servi un pain dont il ne sait pas manger. Incapable de pénétrer par lui-même le sens de la parole de Dieu, et n'ayant personne pour lui en préparer l'intelligence par ses instructions, il est pourvu d'une nourriture qui lui est absolument inutile. Aussi l'apôtre, dit-il, en nous engageant tous en général à l'étude de l'Écriture sainte, « Tout ce qui est écrit a été écrit pour notre instruction, en sorte que les Écritures nous donnent patience, consolation, espoir. » Et ailleurs, remplissez-vous de l'Esprit Saint en vous entretenant vous-même dans les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels. Or, c'est s'entretenir soi-même que de comprendre ce que l'on dit et de savoir tirer le fruit de ses paroles. Le même apôtre dit à Timothée, « En attendant que je vienne, appliquez-vous à la lecture, à l'exhortation, à l'instruction. » Et ailleurs, « Quant à vous, demeurez ferme dans les choses que vous avez apprises et qui vous ont été confiées, sachant de qui vous les avez apprises et que vous avez été nourri dès votre enfance dans les lettres saintes qui peuvent vous instruire pour le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute écriture inspirée de l'Esprit-Saint est utile pour instruire, pour reprendre, pour corriger, pour s'élever dans la voie de la justice, en sorte que l'homme de Dieu soit parfait, étant formé à toute espèce de bonnes œuvres. Et dans sa lettre aux Corinthiens, il les invite à se pénétrer de l'intelligence de l'Écriture sainte, afin de pouvoir expliquer les passages qui seraient cités devant eux. « Attachez-vous, dit-il, à la charité, cherchez à gagner les dons spirituels, surtout le don des prophéties. Car celui qui parle de la langue parle non pour les hommes, mais pour Dieu, tandis que celui qui prophétise édifie l'Église. C'est pourquoi celui qui parle de la langue demande qu'elle soit entendue. Je prierai en esprit, je prierai aussi de façon à être entendu. Je chanterai en esprit, je chanterai aussi de façon à être entendu. Au surplus, si vous bénissez en esprit, qui pourra prendre le rôle du peuple ? Comment répondra-t-il « Amen » à votre bénédiction s'il ne sait ce que vous dites ? Votre action de grâce est bonne, mais nul n'en est édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle une langue que vous entendez tous, mais j'aimerais mieux, quant à moi, dire dans l'Église 5 paroles intelligibles qui instruiraient les autres que 10 000 dans une langue étrangère. Mes frères, ne soyez pas enfants par l'intelligence, soyez enfants par la méchanceté. Par l'intelligence, soyez parfaits. Parler une langue, c'est former des sons et non pas en donner l'intelligence aux autres. Prophétiser ou interpréter, c'est, à l'exemple des prophètes qu'on appelle voyants, c'est-à-dire intelligents, comprendre ce qu'on dit et en donner l'explication. Celui-là prie ou chante de cœur seulement, qui forme des mots et en profère le bruit sans y appliquer son intelligence. Ainsi, lorsque c'est la bouche qui prie en nous, c'est-à-dire lorsque nous nous bornons à articuler des sons par le souffle de la prononciation, sans que le cœur conçoive ce qu'émettent les lèvres, notre âme n'en reçoit pas l'impression nécessaire pour que la prière nous élève, par l'intelligence des paroles émises, à l'amour de Dieu. C'est pour cette raison que l'apôtre nous recommande de nous attacher à ce que nous disons, en sorte que nous ne sachions pas seulement proférer des mots, comme beaucoup d'autres, mais que nous en ayons pleinement l'intelligence. Autrement, il le déclare, « Prière et chant seraient sans profit. » Saint Benoît était aussi de cet avis. « Appliquons-nous à chanter, dit-il, de façon que votre âme soit en harmonie avec votre voix. » C'est aussi le précepte du psalmiste. « Chantez avec intelligence. » Il veut qu'à l'expression des mots, l'assaisonnement de l'intelligence qui donne le goût ne manque pas et que nous puissions en toute sincérité dire au Seigneur « Que vos paroles sont douces à mon gosier ». Et ailleurs, ce n'est pas avec des flûtes que l'homme se rendra agréable à Dieu. La flûte, en effet, émet des sons qui charment les sens mais qui ne pénètrent pas dans l'intelligence. Aussi dit-on que ceux-là jouent bien de la flûte mais ne sont pas agréables au Seigneur, qui se plaisent à produire des sons mélodieux sans que l'intelligence en soit édifiée. Et comment, dit l'apôtre, comment, à la bénédiction dans les cérémonies de l'Église, répondra-t-on « Amen » si la formule de la bénédiction n'est pas comprise, si l'on ne sait si ce que demande la prière est bon ou non ? Ainsi voyons-nous souvent dans les Églises des gens simples et ignorants faire, faute de savoir, des prières qui leur sont plus nuisibles qu'utiles. Quand on dit, par exemple, « Ut sic transeamus per bona temporalia, ut non amitamus eterna, etc. », il en est que l'affinité des mots presque semblables induit en erreur et qui disent « Ut non amitamus eterna » ou encore « Ut non amitamus eterna ». C'est ce danger que l'apôtre veut prévenir quand il dit « Au surplus, si vous bénissez en esprit, c'est-à-dire si vous vous bornez à émettre des lèvres les mots de la bénédiction sans prendre la peine d'en faire arriver le sens à l'intelligence de l'auditeur, qui prendra le rôle du peuple ? C'est-à-dire qui, parmi les assistants, dont le rôle est de répondre, se chargera de répondre pour le peuple qui ne peut pas, qui ne doit pas le faire ? Comment dira-t-il « Amen » ne sachant si c'est dans une bénédiction ou dans une malédiction que vous l'engagez ? Enfin, comment ceux qui ne comprennent pas les Écritures pourront-ils se permettre des discours édifiants, exposer, interpréter la règle ou en corriger les abus ? Aussi ne sommes-nous pas peu étonnés, c'est une inspiration du démon, qu'il ne se fasse dans les monastères aucune étude pour l'intelligence des Écritures, qu'on s'occupe d'exercer au chant et à la prononciation des mots, et point d'en donner la compréhension, comme si pour la brebis, bêler était plus utile que paître. L'intelligence de la divine Écriture est l'aliment et la nourriture spirituelle de l'âme. C'est ainsi que le Seigneur, destinant Ézéchiel à la prédication, le nourrit d'un livre qui coula aussitôt de ses lèvres comme un doux miel. Nourriture dont il est écrit dans Jérémie « Les enfants ont demandé du pain et il ne s'est trouvé personne pour le leur rompre. » Car c'est rompre le pain aux enfants que de donner aux simples l'intelligence des lettres. Et ces enfants qui demandent du pain sont ceux qui désirent nourrir leur âme de l'intelligence de l'Écriture, ainsi que le dit ailleurs le Seigneur « J'enverrai la faim sur la terre, non pas une faim de pain ni une soif d'eau, mais la faim d'entendre la parole de Dieu. » Le démon, au contraire, a envoyé dans les cloîtres des monastères la faim et la soif d'entendre les paroles des hommes et les bruits du monde, en sorte qu'occupés d'un vain partage, nous repoussions la parole divine qui, faute des doux assaisonnements de l'intelligence, nous paraît sans goût. C'est de là que David disait, ainsi que je l'ai rapporté plus haut, que ces paroles sont douces à mon gosier, elles sont plus douces que le miel à mes lèvres. Et il explique aussitôt en quoi consiste cette douceur. Vos préceptes m'ont donné l'intelligence. C'est-à-dire, c'est par vos préceptes et non par ceux des hommes que j'ai reçu l'intelligence. Ce sont eux qui m'ont instruit et éclairé. Quelle est l'utilité de cette intelligence ? Il n'oublie pas de la montrer. C'est pour cela, ajoute-t-il, que j'ai haï toutes les voies d'iniquité. Il est en effet beaucoup de voies d'iniquité si manifestement ouvertes qu'il est difficile que tout le monde n'en vienne pas à les haïr ou à les mépriser. Mais ce n'est que par l'intelligence de la parole divine que nous pouvons connaître toutes celles qui existent et les éviter. C'est de là que David dit encore « J'ai caché mes paroles dans mon cœur afin de ne pas vous offenser. » Elles sont cachées dans notre cœur plutôt qu'elles ne résonnent sur nos lèvres lorsque la méditation en a fixé l'intelligence. Ainsi, moins nous nous appliquons à cette intelligence, moins nous connaissons, moins nous évitons les voies d'iniquité et moins nous pouvons nous prémunir contre le péché. Cette négligence est d'autant plus coupable chez les moines qui aspirent à la perfection que la science leur est plus facile grâce à l'abondance des livres saints dont ils sont pourvus et aux loisirs dont ils jouissent. Aussi, dans les vies des pères, l'auguste vieillard accusait-il vivement ceux qui se glorifient de la multitude des livres qu'ils possèdent et qui ne prennent aucun soin de les lire. Les prophètes ont écrit des livres, dit-il. Nos pères qui sont venus ensuite ont beaucoup travaillé sur ces livres, leurs successeurs en ont rempli leur mémoire. Puis est venue cette génération, la nôtre, qui les transmet sur des parchemins et des pots, mais qui les laisse reposer dans les vitrines des bibliothèques. C'est pour cela que l'abbé Palladius aussi nous engage vivement à apprendre et à enseigner. Il faut qu'une âme qui veut vivre selon la volonté de Jésus-Christ, dit-il, apprenne sérieusement ce qu'elle ignore ou enseigne clairement ce qu'elle sait. Or, si elle ne sait ni l'une ni l'autre de ces choses, le pouvant mais ne le voulant pas, c'est qu'elle est atteinte de folie. En effet, le premier principe de l'éloignement de Dieu, c'est le manque de goût pour sa doctrine. Et comment peut-on l'aimer quand on ne désire pas ce dont l'âme a toujours besoin ? Ainsi, saint Athanase, dans son exhortation aux moines, leur recommande-t-il le soin de la lecture et de l'étude jusqu'à leur permettre, pour s'y livrer, d'interrompre l'exercice de la prière. « Je vais, dit-il, tracer le chemin de notre vie. D'abord l'abstinence, le jeûne, la prière et la lecture assidue, ou pour ceux qui ne seraient pas encore versés dans les lettres, le soin d'écouter, inspiré par le besoin d'apprendre. Voilà pour les nouveau-nés, encore nourris à la mamelle, si je puis ainsi dire, les premiers éléments de la connaissance de Dieu. Et, après quelques explications, « Il faut, ajoute-t-il, incessamment prier, d'une prière à l'autre, qu'il y ait à peine à l'intervalle d'un moment. Il ne doit y avoir d'interruption, dit-il ensuite, que pour la lecture. » Saint-Pierre ne dit pas autrement. « Soyez toujours prêts à rendre raison de votre foi et de vos espérances à qui vous interroge. » Et Saint-Paul, « Nous ne cessons de prier pour vous, afin que vous soyez remplis de la connaissance de Dieu en sagesse et en intelligence spirituelle. » Et encore, « Que la parole de Jésus-Christ demeure en vous avec la plénitude de sa sagesse. » Dans l'Ancien Testament, la loi recommande aussi aux hommes de s'instruire des préceptes sacrés. Heureux l'homme, dit David, qui ne s'est pas laissé aller au conseil des impies, qui ne s'est pas arrêté dans la voie des pécheurs, qui ne s'est pas assis dans les chairs de pestilence, mais dont la volonté repose sur la loi du Seigneur. Dieu lui-même dit à Jésus-Christ, « Ce livre ne sortira pas de vos mains et vous le méditerez jour et nuit. » Parmi les occupations du monastère s'introduisent souvent les mauvaises pensées dont la pente est glissante. Et bien que notre application tienne notre esprit tendu vers Dieu, l'idée des choses du siècle a toujours prise sur nous et nous agite. Que si celui qui se livre avec zèle aux exercices religieux est exposé à ses tentations, comment celui qui ne fait rien y échappera-t-il? Le pape Saint Grégoire, dans son 19e livre des morales, dit « Nous gémissons de voir déjà arriver le temps où nous trouvons dans l'Église tant de prélats qui ne veulent pas exécuter ce qu'ils comprennent ou qui dédaignent même de connaître et de comprendre la parole divine. Car ils détournent leurs oreilles de la vérité pour écouter des fables. Ils cherchent tout ce qui est de ce monde, non ce qui est de Jésus-Christ. Partout, on trouve les écrits qui renferment la parole de Dieu. Partout, on peut les lire. » Mais les hommes dédaignent de les connaître et nul, pour ainsi dire, ne cherche à savoir ce qu'ils croient. Cependant, la règle de chaque monastère et les exemples des saints pères nous y exhortent. Saint Benoît ne donne aucun précepte sur l'enseignement ou l'étude du chant, et il en donne un grand nombre sur la lecture. Il fixe même exactement les moments de lire comme ceux de travailler. Il règle si bien l'enseignement de la dictée et de la composition que parmi les objets nécessaires que les moines ont le droit d'attendre de l'abbé, il n'oublie ni le papier ni les plumes. Bien plus, il prescrit, entre autres choses, au commencement du carême, que tous les moines reçoivent un certain nombre de livres de la bibliothèque pour les lire à la suite et d'un bout à l'autre. Or, quoi de plus ridicule que de donner du temps à la lecture et de ne pas prendre le soin de comprendre ce qu'on lit? On connaît le proverbe du sage « Lire sans entendre, c'est perdre son temps. » C'est à un tel lecteur qu'on peut appliquer avec justesse ce mot du philosophe « un âne devant une lyre ». C'est en effet un âne devant une lyre qu'un lecteur qui tient un livre et qui n'en comprend pas le sens. Mieux vaudrait, pour ceux qui lisent ainsi, porter leur effort sur quelque chose d'utile que de perdre leur temps à regarder des lettres et à tourner des feuillets. Ces sortes de lecteurs accomplissent bien la prophétie d'Isaïe. Toutes les visions des prophètes vous seront comme les caractères d'un livre fermé qu'on donnerait à un homme qui sait lire en lui disant « Lisez ce livre » et il répondra « Je ne puis, ce livre est fermé ». Alors on donnera le livre à un homme qui ne sait pas lire en lui disant « Lisez » et il répondra « Je ne sais pas lire ». C'est pourquoi le Seigneur a dit « Ce peuple s'approche de moi, mais seulement de la bouche. Il me glorifie, mais seulement des lèvres. Quant à son cœur, il est éloigné de moi. Il ne me craint que parce que les hommes l'ordonnent et renseignent ainsi. Voici donc que je frapperai ce peuple d'admiration et d'étonnement en accomplissant un grand prodige. La sagesse de ces sages périra et l'entendement de ces habiles sera obscurci. » On dit dans les cloîtres que ceux-là connaissent les lettres, qu'ils savent les prononcer. Pour ce qui est de l'intelligence, ils avouent qu'ils ignorent la loi. Et le livre qu'on leur donne est pour eux un livre fermé, comme pour ceux qu'ils appellent illettrés. Eh bien, ce sont ceux-là que le Seigneur accuse de s'approcher de lui de la bouche seulement et des lèvres, puisqu'ils ne peuvent comprendre les mots qu'ils savent, tant bien que mal, prononcer. Étrangers à la science des révélations divines, ils suivent plutôt, dans leur obéissance, la coutume des hommes que l'utilité de l'Écriture. C'est pour cela que le Seigneur menace d'aveugler ceux qui, parmi eux, passent pour sages et siègent comme docteurs. Le grand docteur de l'Église, l'honneur de la vie monastique, saint Jérôme, nous exhorte à l'amour des livres quand il dit « Aimez la science des lettres, c'est le moyen de ne pas aimer les péchés de la chair ». Combien il aura consacré lui-même de temps et de peine, son témoignage nous l'apprend. Entre autres révélations qu'il nous fait sur ses propres études, sans doute pour que son exemple nous serve de leçon, il dit en certains passages à Pamachius et à Océanus « Quand j'étais jeune, j'étais dévoré d'une ardeur d'apprendre extraordinaire, et je n'avais pas fait moi-même mon éducation suivant les présomptueuses prétentions de quelques-uns. J'ai suivi les leçons d'Apollinaire à Antioche, je me suis attaché à lui, et il m'instruisait dans les saintes Écritures. Déjà, des cheveux blancs parsemaient ma tête, et le rôle de maître me convenait mieux que celui de disciple. J'allais néanmoins à Alexandrie, je suivis les leçons de Didyme, et je lui rends grâce de m'avoir appris bien des choses que j'ignorais encore. On croyait que j'en avais fini d'apprendre. Je retournai à Jérusalem et à Bethléem pour assister, au prix de quel travail et de quelles dépenses, au cours du docteur hébreu Baranias. Il les faisait la nuit, car il craignait les Juifs, et il se montrait pour moi comme un autre Nicodème. Il avait sans doute gravé dans la mémoire ce qu'il avait lu dans l'Ecclésiaste. « Mon fils, commencez à vous instruire dès votre jeunesse, et jusqu'en vos vieux ans, vous trouverez la sagesse. » Et ce n'étaient pas seulement les paroles de l'Écriture, c'était aussi les exemples des saints pères qu'il avait instruits. Car parmi les éloges qu'il donne à cet excellent monastère, il ajoute ceci au sujet de l'étude particulière qu'on y faisait des saintes Écritures. Nous n'avons jamais vu tant d'applications à la méditation, à l'intelligence, à l'étude des divines Écritures. On aurait pris des moines pour autant d'orateurs appelés à l'enseignement de la sagesse divine. Saint Bède aussi, reçu fort jeune dans un monastère, disait, ainsi qu'il le rapporte dans son Histoire d'Angleterre, « Pendant tout le temps de ma vie que j'ai passé dans le même monastère, je me suis livré à la méditation de l'Écriture, et dans les intervalles de loisirs que me laissait l'observance de la règle et le soin quotidien de chanter à l'église, j'ai fait mes délices d'apprendre, d'enseigner ou d'écrire. » Aujourd'hui, ceux qui sont élevés dans les monastères se complaisent dans une telle ignorance que, se bornant à émettre des sons, ils ne prennent aucun souci de comprendre. Ce n'est pas leur cœur, c'est leur langue qu'ils s'attachent à former. C'est à eux que s'adresse clairement Salomon dans ses proverbes lorsqu'il dit « Le cœur du sage cherche la science et la bouche de l'insensé se repaît d'ignorance. » Cela, sans doute, quand il se plaît à répéter des paroles qu'il ne comprend pas. Et certes, ils doivent d'autant moins aimer Dieu et s'enflammer pour lui qu'ils sont plus éloignés de le comprendre et d'entendre l'Écriture qui nous le fait comprendre. Deux causes particulièrement ont, selon nous, contribué à cette ignorance. D'abord, l'envie des frères laïcs ou convers et même des supérieurs. Ensuite, le vain partage et l'oisiveté que nous voyons aujourd'hui régner dans la plupart des monastères. Dans leur désir de nous attacher avec eux aux choses de la terre plutôt qu'aux choses du ciel, ces moines ressemblent aux Philistins qui persécutaient Isaac tandis qu'ils creusaient des puits et qui comblaient ces puits avec de la terre pour l'empêcher d'avoir de l'eau. C'est ce que saint Grégoire définit dans son 16e livre des Morales lorsqu'il dit « Souvent, tandis que nous nous appliquons aux saintes Écritures, nous avons à lutter contre les embûches des esprits malins qui jettent dans nos yeux la poussière des pensées de la terre et les ferment à la lumière de la vue intérieure. » Ce que le psalmiste n'avait que trop éprouvé quand il disait « Éloignez-vous de moi, esprit méchant, et je scruterai les commandements de mon Dieu. » Faisant entendre par là clairement qu'il ne pouvait scruter les commandements de Dieu tandis que son esprit était en lutte avec les embûches des malins esprits. C'est ce que marque aussi dans l'œuvre d'Isaac la méchanceté des Philistins qui remplissaient de terre les fossés qu'il avait creusés. En effet, nous creusons des puits lorsque nous pénétrons dans les profondeurs du sens des divines Écritures, et les Philistins les comblent secrètement quand, parmi nos méditations profondes, ils nous suggèrent les pensées terrestres de l'esprit du mal et nous ferment, pour ainsi dire, les sources de la science divine que nous avons découverte. Et comme personne ne peut triompher de tels ennemis par sa propre vertu, il est dit par Eliphas « Le Tout-Puissant sera contre vos ennemis et vous amasserez des trésors. » C'est comme s'il était dit « Tandis que le Seigneur, par sa puissance, éloignera de vous les malins esprits, le trésor de la divine parole s'augmentera en vous. » Il avait lu, sans doute, les homélies sur la Genèse du grand philosophe des chrétiens, d'Origène, et il y avait puisé ce qu'il nous dit de ces puits. Car non seulement c'était un foreur ardent des puits spirituels, non seulement il nous engageait à venir boire de leur eau, mais il nous exhortait à forer des puits nous-mêmes, ainsi qu'il le dit dans le développement de sa 12e homélie. Essayons de faire ce que la sagesse nous enseigne en disant « Buvez de l'eau de vos fontaines et de vos puits, et ayez une fontaine à vous. » Et vous aussi, mon cher auditeur, tâchez d'avoir un puits, une source à vous, afin que, lorsque vous aurez pris un livre des Saintes Écritures, vous puissiez vous-même en interpréter le sens, conformément aux leçons que vous avez reçues dans l'Église. Tâchez, vous aussi, d'étancher votre soif à la source de votre esprit. Vous avez en vous un fond d'eau vive, une source intarissable, un courant d'intelligence et de raison. Ne les laissez pas combler par la terre et les pierres. Creusez votre terrain d'une main ferme, nettoyez-le, c'est-à-dire cultivez votre esprit, écartez-en la mollesse et l'engourdissement. Écoutez ce que dit l'Écriture. Piquez votre œil et il en sortira des larmes. Piquez votre cœur et il en sortira de l'intelligence. Purifiez donc votre esprit afin d'arriver à boire de l'eau vive de Jésus, et si vous la gardez fidèlement, elle deviendra pour vous une source jaillissante dans la vie éternelle. Et encore dans l'homélie suivante sur les puits d'Isaac. Ces puits, dit-il, qui avaient été comblés par les Philistins, ceux-là les comblent évidemment, qui ferment l'intelligence spirituelle, en sorte qu'ils n'y boivent pas eux-mêmes et qu'ils ne permettent pas aux autres d'y boire. Écoutez plutôt le Seigneur. Malheur à vous, scribes et pharisiens, qui avez perdu la clé de la science, qui n'y êtes pas entrés vous-même, et qui n'avez pas laissé rentrer ceux qui le voulaient. Pour nous, ne nous lassons pas de creuser des puits d'eau vive, approfondissons les anciens, creusons-en de nouveaux, prenons pour modèle ce scribe de l'Évangile dont le Seigneur a dit qu'il tira de son trésor des pièces de monnaie anciennes et nouvelles. Et encore, imitons Isaac et creusons avec lui des puits d'eau vive. Les Philistins, dussent-ils s'y opposer et nous chercher querelle, n'en persévérons pas moins à creuser des puits avec lui, afin qu'il nous soit dit à nous aussi « Buvez de l'eau de vos vases et de vos puits. Creusons jusqu'à ce que l'eau déborde dans nos places publiques. Que la science des divines Écritures ne donne pas seulement satisfaction à nos propres besoins, éclairons les autres, apprenons-leur à boire. Que les hommes boivent et les animaux aussi, suivant cette parole du prophète « Seigneur, vous sauverez les hommes et les bêtes de somme. » Et quelques lignes plus bas, « Celui qui est philistin et qui n'a le goût que de la science terrestre ne saurait pas plus trouver de l'eau dans le monde entier que trouver le sens intelligent des choses. » À quoi bon la science pour n'en pas faire usage? À quoi bon la parole pour ne s'en point servir? C'est ressembler aux enfants d'Isaac qui creusaient partout des puits d'eau vive. Qu'il n'en soit pas ainsi de vous. Fuyez tout vain partage et que celles d'entre vous auxquelles est échue la grâce d'apprendre s'attachent à s'instruire des choses de Dieu, ainsi qu'il est écrit du saint homme « Sa volonté repose sur la loi de Dieu et il méditera sur la loi nuit et jour. » Pour prouver l'utilité de cette étude assidue de la loi du Seigneur, il est dit ensuite « Et il sera comme un arbre planté au bord d'un ruisseau. » En effet, ce qui n'est point arrosé par les eaux de la divine parole est comme un arbre sec et stérile, tandis qu'il est écrit de la Sainte Écriture, « Il coulera de son sein des fleuves d'eau vive. » Ce sont ces fleuves que l'épouse, dans le Cantique des Cantiques, célèbre à la louange de l'époux quand elle dit « Ses yeux sont comme des colombes sur le bord des ruisseaux, des colombes qui se baignent dans le lait et qui séjournent près des fleuves au large cours. Et vous aussi, vous baignant dans ce lait, c'est-à-dire resplendissant du pur éclat de la chasteté, demeurez comme les colombes auprès des fleuves, afin qu'y buvant à longs traits la sagesse, vous puissiez non seulement apprendre, mais enseigner et indiquer la route aux autres du regard, voir le divin époux et le montrer. » Nous savons qu'au sujet de l'épouse qui mérita l'honneur singulier de concevoir l'époux par l'oreille du cœur, il est écrit « Marie conservait toutes ses paroles et les amassait dans son cœur. » Cette mère du Verbe éternel avait donc, non sur les lèvres mais dans le cœur, les paroles divines, et elle les gardait précieusement, méditant sur chacune d'elles avec zèle, les rapprochant les unes des autres, étudiant leur harmonie. Suivant le mystère de la loi, elle savait que tout animal est impur, sauf celui qui rumine et qui a la corne fendue. En effet, il n'y a d'âme pure que celle qui rumine, autant qu'elle en est capable, par la méditation, les divins préceptes, et qui applique son discernement à les suivre, en sorte que non seulement elle fasse le bien, mais qu'elle le fasse bien, c'est-à-dire avec une intention droite. Quant à la corne du pied fendu, c'est le discernement dont il est écrit « Si vous offrez justement, mais que vous ne partagez pas de même, vous péchez. » « Celui qui m'aime, dit la vérité, conservera ma parole. Or, qui pourra garder par l'obéissance les paroles ou les enseignements du Seigneur s'il n'a commencé par les comprendre ? On n'a de zèle pour exécuter que lorsqu'on a été attentif à écouter, ainsi qu'il est écrit de cette sainte femme qui, dédaignant tout le reste, s'assit aux pieds du Seigneur pour entendre sa parole, sans doute avec les oreilles de cette intelligence qu'il demande lui-même quand il dit « Que celui-là écoute, qui a des oreilles pour écouter. Que si vous ne pouvez être enflammé de la même ferveur de piété, imitez du moins, dans l'amour et l'étude des saintes lettres, ces bienheureuses disciples de saint Jérôme, Paul et Eustochie, à la demande desquels ce grand docteur a, par tant d'ouvrages, éclairé l'Église. »